direct de Montréal, voici le cabaret des acolytes.
Le spectacle va bientôt commencer.
On peut pas faire de magie, on peut pas les inventer, ces personnes-là.
Ça alors, pour une surprise, c'est tout une surprise. Oh, bonjour les petits.
Accueillez votre animateur pour le cabaret des acolytes, Jean-François Gélinas.
C'est moi. Je vous souhaite la bienvenue à ce tout nouveau cabaret des acolytes. Le rideau s'ouvre sur la grande scène. On prit place autour de cette table, les fameux acolytes. Bonsoir la gang!
Bonsoir!
Je vous les présente, ces acolytes, ces gens qui partagent notre studio virtuel confiné depuis près d'un an maintenant. Alors voici donc Marie-Christine Gélinas.
Salut!
Communément t'appeler Christine, Gélinas, hein? Juan Blasco.
Allô, allô!
Geneviève Proulx.
Allô!
Et Janelle Touchette.
Bonsoir tout le monde!
Et qu'on en a eu du plaisir, hein, là, au dernier cabaret avec notre poète con, c'est comme ça qu'il s'appelle, là.
Vraiment,
Patrick Baudouin.
Ah oui!
Un gros coup de cœur!
Un gros coup de cœur! D'ailleurs, Brigitte, sur notre page Facebook, a même écrit... pour dire que le poète con avait volé le spectacle lors du dernier cabaret. Hein? Alors, on salue Brigitte. Et écris-nous, Brigitte, cette semaine pour nous dire qui volera le show. Hein? Bon, je vous le promets. Comment qu'il disait, Patrick? Il disait « Hey, mon Zachary, sors-moi du bayou. Hein? Ensemble, on va faire la danse de l'écrevisse. » Il l'avait vu que moi. Hein? Je vous promets, il va revenir bientôt. Très bientôt.
Oh, j'ai hâte.
Pour ceux qui
on
sont...
l'a adopté.
Oui, hein?
Mm-hmm.
Alors, pour ceux qui sont nouveaux autour de ce cabaret, un bref rappel de ce qu'est le cabaret. On fait à chaque semaine un cabaret autour d'un thème choisi par nos acolytes. Et cette semaine, le thème, c'est une proposition conjointe de Geneviève et de Juan. Êtes-vous excité par ce cabaret?
Oui, vraiment excité, Jean-François. Je suis fan du thème. Et j'ai bien hâte de voir ce que nous réservent les acolytes, puisque je suis toujours à la recherche de nouvelles émotions en la matière.
Oh, OK. Alors, je vous reviens dans quelques secondes, les acolytes, le temps de présenter aux auditeurs le thème de notre cabaret ce soir. En rafale, les épisodes de nos séries télévisées défilent les uns après les autres. Captivés, envoûtés, intrigués et même peut-être hypnotisés, ou encore ensorcelés, nous ne sommes même pas capables d'attendre le décompte de 10 secondes pour le prochain épisode. C'est plus fort que nous. On clique maintenant. Les Américains ont inventé un autre mot pour exprimer le phénomène qu'on parle ce soir, le sujet de ce cabaret. Ils parlent du Netflixing, un sport dont nous sommes souvent les champions de notre salon. Un sport qui demande beaucoup de dévouement pour rester assis toute la journée et se concentrer sur le visionnage d'une saison entière d'une série. Vous l'aurez deviné, ce soir, les acolytes vous font tout un cabaret autour du binge-watching ou, comme le propose l'Office québécois de la langue française, le visionnage en rafale. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'est le terme « binge-watching », bien, c'est tout simplement cette pratique qui consiste à regarder plusieurs épisodes d'une émission, généralement d'une série télévisée, les uns à la suite des autres, et ce, sans interruption. Je me tourne vers vous, les acolytes. Cette semaine, on a un spécial. Ce n'est pas Christine qui va nous présenter ses choix musicaux.
Mais non.
Mais non, d'un commun accord. Christine a laissé sa place à Juanito. Ça te tentait d'essayer de sélectionner pour ce cabaret des extraits musicaux qui vont nous donner le goût d'aller écouter des séries télévisées, des séries
alors,
qui nous
oui,
ont marqué.
Jeff, ça me tentait, mais c'est toute une nouvelle expérience du cabaret pour moi aujourd'hui. Je suis quand même surpris de voir à quel point ça prend une préparation intense pour ce cabaret, la musique. C'est vraiment l'âme du cabaret. Et quand on prend le relais de notre DJ Star que j'ai nommé Christine, je peux vous le dire, le défi est assez grand à relever, mais je me suis prêté au jeu.
Ben oui, c'est tout un fauteuil. Hein? Et bon, oui. on va voir si tu si tu t'assois bien, correctement dans ce fauteuil-là. Hein?
C'est ma crainte.
Et Christine, tu as joué au jeu, tu as fait un peu d'histoire, et c'est toi qui vas nous présenter l'histoire du binge-watching.
Bien, assurément, et je prends le fauteuil de Juan aussi, là, donc moi aussi, c'est tout un défi de mon côté. Je vous en parle un peu rapidement pour vous donner le sens littéraire du terme, dans un premier temps, binge, qui était utilisé dans la Première Guerre mondiale pour désigner le fait de manger et de boire en excès. Et le binge-watching vient de l'expression binge-drinking, qui signifie le fait d'enchaîner des consommations d'alcool très rapidement, souvent lors de parties ou bien de beuveries. En fait. Vous allez voir, c'est hyper intéressant l'histoire du binge-watching.
Ouais. Ah, vraiment cool.
Et un petit avertissement, c'est comme tout dans la vie, hein, il y a des excès, puis des fois, les excès peuvent mener à certains aspects négatifs. On en traitera peut-être un petit peu dans le cabaret, mais on va peut-être traiter plus des aspects positifs du binge-watching. Merci beaucoup, Christine. Janelle, c'est toi qui vas ouvrir ce cabaret. Tu continues à apprécier les faits insolites, mais cette fois, tu vas te tourner sur les incontournables des séries américaines.
Exactement, les classiques du binge-watching. J'ai tellement aimé le thème cette semaine. Ouf, j'avais du matériel, je vous le dis. j'ai hâte de vous en parler.
Pas mal, puis nos fans sur Facebook nous en ont donné pas mal de suggestions.
Absolument, oui.
Si Janelle nous parle de ce qui se passe du côté américain, ben on s'est dit pourquoi pas, Geneviève, parle-nous de ce qui se passe chez nous au Québec.
Certainement, ça va me faire plaisir de faire une petite tournée ici, comme on dit.
Merci Geneviève. Ben moi pour cette semaine, j'ai été inspirée par deux livres de la journaliste Marion Miclet, Découvrir New York en série et Découvrir Londres en série. Elle nous présente des endroits où les touristes affluent afin d'aller voir les lieux de tournage de leurs séries préférées. Et on peut se le dire pour certains, ce sont réellement des lieux de pèlerinage, un monde fascinant. J'ai hâte de vous présenter ça. Alors, ça démarre, Les Acolytes. Êtes-vous prêts pour la première de Juanito? C'est son choix musical, à lui, tout seul. Alors, ça démarre, Les Acolytes. Le cabaret est ouvert sous le thème du binge-watching. Ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao. Questo fiore del partigiano, morto per la libertà. Un coup de cœur pour plusieurs, un coup de cœur des dernières années. Alors, Juanito.
Alors on écoutait Bella Ciao, la fameuse chanson rendue populaire par la série La Casa de Papel, donc interprétée par Manu Pilas. À l'origine, c'était un chant de révolte italien qui est un peu le symbole de la résistance italienne pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est le chant en fait des Italiens qui se sont battus contre les nazis et les fascistes, donc vraiment un symbole assez fort quand on a vu la série La Casa de Papel, que je vous recommande.
Ah oui, quelle bonne série, hein? L'avez-vous écouté autour de la table? Oui, Geneviève.
J'adore ça. Très, très bon.
Bon choix pour commencer.
Oui, hein, ça met dans l'ambiance. Merci beaucoup, Juan. Alors, on revient plus tard à toi dans l'émission avec d'autres musiques et chansons. Vous nous écoutez et vous nous aimez. Le meilleur moyen pour nous soutenir, c'est d'aimer notre page Facebook, facebook.com/ le cabaret des acolytes. Ce qu'on aime le plus, c'est d'avoir une communauté vivante de fans qui nous suivent et nous écrivent. N'hésitez pas à en faire partie. Finalement, le balado est rendu possible, notamment grâce à Balado Québec. On les remercie et le cabaret des acolytes est disponible chez eux, mais aussi sur Spotify, Apple, Google et la plupart des plateformes de podcast. On poursuit ce cabaret sous le thème du binge-watching et c'est Janelle qui ouvre le cabaret ce soir. Je me tourne vers toi, Janelle.
Oui.
Tu vas nous parler des séries américaines. Comment as-tu fait pour cette semaine pour faire ton choix? Il y en a tellement, tellement de grandes sélections.
Vrai, j'étais un peu... je suis d'accord avec toi, t'as raison, j'avais de la misère à choisir. J'ai fait des regroupements. Attention, ici, là, je vais pas décrire les séries, je vais plutôt vous nommer les coups de cœur selon les genres. Puis je vais parsemer ça de faits inédits. Donc, on débute avec les shortcoms ou les sitcoms. Oui, c'est ça. Donc, les Friends, The Office, les Seinfeld, les Modern Family de ce monde. effectivement super populaire. Tu sais, parlant de Friends, la fameuse Rachel, je ne sais pas si vous saviez qu'elle a passé à deux doigts de ne pas être dans la série. Elle avait plusieurs auditions en même temps.
Ouais.
Elle a fini par être l'actrice la plus populaire de l'émission. Puis, puis c'est quand même connu qu'au pic, la popularité, là, les six acteurs recevaient plus de... recevaient $1 million par épisode.
Oh, oh mon Dieu!
Là, là.
Ouais, ouais.
Mais puis, Rachel, elle a eu de la misère à l'après de repartir
de rebondir,
ça,
hein,
de rebondir,
oui.
Ouais.
L'émission a failli s'appeler Insomnia Café, d'ailleurs aussi.
Ah,
ouais.
Okay.
Et puis Seinfeld, là, dans le fond, ça l'a fini très fort, Seinfeld, mais Jerry Seinfeld, l'auteur, s'est fait proposer de continuer la série, dans le fond, une saison de plus, mais il a refusé parce qu'il a quand même eu peur de risquer de finir en flop. Il a voulu finir en force.
Mm-hmm.
Ouais. Côté drame médical, je peux pas passer à côté de Grey's Anatomy qui est rendu à sa 16e saison. Hein, en fait, le drame médical américain le plus ancien de la télévision. D'ailleurs, on utilise des vrais organes de vache et des cerveaux de mouton sur le plateau.
Non, ça
ça doit sentir bon.
Drame judiciaire et politique. Écoutez, là, on est servi, il y en a plusieurs. Les Scandals, Suits, House of Cards qui ont fait connaître les dessous des métiers. D'ailleurs, peut-être que vous ne savez pas, d'ailleurs, le rôle d'Olivia Pope dans Scandal est basé sur une vraie personne.
Ah oui?
Ouais.
Ah.
J'ai découvert que Judy Smith a inspiré la série. Elle a été l'assistante spéciale et attachée de presse de George W. Bush. C'est aussi elle qui a géré le scandale de Bill Clinton et Monica Lewinsky.
Oh, wow.
Incroyable.
Oui. Puis moi, je trouvais ça impressionnant aussi de voir que c'est la première télésérie créée par une femme noire, mettant en vedette une femme noire, réalisée par une femme noire, qui est diffusée sur un des trois grands réseaux américains qui a connu qui a connu un très grand succès. Ça, je trouvais que c'était très intéressant à nommer. Puis, j'ai aussi lu que House of Cards s'est avéré le pionnier du streaming en ligne. Là, dans le fond, ça a été la deuxième fois que Netflix produisait une programmation originale. Ça a été un énorme succès. L'émission a changé la façon dont on regardait ça traditionnellement. Je veux pas trop empiéter sur toi, Christine, mais tu sais, Netflix a appris qu'il devait changer la façon de donner ou en fait de mettre en ligne les épisodes là, pour favoriser le binge-watching, ce que les auditeurs demandaient. Ça a été aussi la première web-série, tu sais, du type Netflix, puis Crave a gagné un Emmy Award en 2013.
Mm-hmm. Oh, wow.
Of course, ouais. Pour nos amoureux d'action et d'aventure, les Homeland, les 24, Prison Break, Breaking Bad de ce monde. J'adore. Il y en avait ça sur notre page Facebook. D'ailleurs, les gens nous ont recommandé ça comme série coup de cœur. Vous saviez que dans 24 heures Top Chrono, Jack Bauer a tué 198 personnes durant les 6 saisons?
Donc en 6 jours, finalement.
Oui, puis je vous dis que le moment le plus simple de la journée, c'est entre 9h et 10h. Seulement 9 morts dans toute la série, entre 9h et 10h. Puis 24 heures dans la vie de Jack Bauer, ça prend 10 mois et demi à filmer.
Oh, oh mon Dieu!
Quand même, hein? Quand l'acteur Kiefer Sutherland a gagné pas moins que $40 million par saison.
Hey.
Ouais.
C'est de
l'argent. Moi, j'ai aussi, je l'avoue, je n'ai pas encore regardé Breaking Bad, mais ça m'a donné le goût avec ce que j'ai lu cette semaine. 139 victoires, 229 nominations et l'émission de télévision la plus récompensée de tous les temps.
Il faut que tu écoutes cette série.
Oui, mais ça va être ma prochaine parce que ça m'a donné le goût. Breaking Bad, on me dit une narration impeccable, une intrigue captivante, des personnages bien balancés. T'sais, partout, c'était écrit que rien de moins que c'était la meilleure série de tous les temps, de ce que j'ai lu, du moins.
Ouais, ça vient toucher nos valeurs parce que quand tu es profondément attaché à des meurtriers, là, ça vient
ça
bousculer.
Comme Dexter,
hein.
Comme
Dexter, oui.
Oui. Fantastique et science-fiction, je peux pas passer à côté de GOAT pour les intimes de Game of Thrones. Ayant un taux de mortalité et de sexualité élevé, on peut pas. C'est pas étonnant le running gag de pas s'attacher à aucun personnage. Hein. Je veux pas voler aucun punch là, mais le Red Wedding, c'est l'élément de surprise de la série dans le fond qui a fait couler le plus d'encre. Ça a été d'ailleurs inspiré d'un fait historique. Et puis, Arya Stark a gagné le titre du personnage le plus meurtrier dans Game of Thrones, totalisant pas moins de 1278 victimes.
Oh mon Dieu Seigneur!
Ouais.
Ah ben, oui, oui.
Il bat Jack Bauer.
Oui, ah oui, oui, à plat de couture même.
Oui.
Je finis avec les séries historiques, les Downton Abbey, les Crown, les Bridgerton. Bridgerton, toute nouvelle, qui est sortie à Noël, dans le fond, le Noël qui vient de passer. Mm-hmm. C'est tiré des livres de Julia Quinn. Le drame se déroule en Grande-Bretagne dans le 19e siècle, puis on raconte, dans le fond, c'est basé sur la fille aînée, Daphné, qui est à la quête de se trouver un mari. Il y aura des intrigues, des tensions sexuelles, là aussi, et de la bonne musique. Tout récent, encore...
C'est très, très bon. Et il est très beau, le personnage principal. Ça, on aime ça, les scènes de nudité dans ce temps-là.
Écoute, je te l'accorde. En fait, je vous en parle parce que c'est la série Netflix qui a eu le début le plus fracassant de tous les temps, avec 82 millions d'écoutes dans les foyers au cours du premier mois. On s'attendait, on avait un pronostic de 63. Ça a fracassé toutes les... toutes les statistiques, ça a été un record. Puis parlant de record, il y a aussi The Crown qui aurait coûté 130 millions pour la première saison, la série la plus chère jamais réalisée.
C'est bon, ça.
Oui,
bon.
Voilà.
Je parlais des meurtriers tout à l'heure. Puis là, tu sais, quand on a de l'affection pour la reine, hein, c'est quand même se dire comment que les séries nous transportent, hein.
Exactement, tout à fait. Alors, j'espère que je vous ai donné le goût, les auditeurs, d'aller voir, visionner certaines séries si c'est pas déjà fait, ou même d'en réécouter. Moi, je suis une fan de réécouter des séries préférées. Friends, j'ai dû la voir au moins 5, 6, 7 fois, je pense.
On est pareil.
Ouais.
Merci beaucoup, Janelle.
Merci.
Juanito, qu'est-ce qu'on écoutait?
Ouais, on écoutait le générique de Downton Abbey, donc la fameuse série britannique historique dont nous parlait Janelle il y a très peu de temps. C'est très très prenant, c'est une série qui est pleine de rebondissements. Elle nous dépeint un petit peu le début du siècle dernier, donc les années 10 et les années 20, incluant la guerre de 14-18, les années folles, puis dans le fond c'est toute l'histoire d'une maison d'aristocrates anglais avec les messes basses et les trépidations de la vie des domestiques. Une très belle série à binge-watcher, puis c'était interprété par l'Orchestre de Londres.
Bon, ben merci beaucoup.
C'est beau.
Juanito. Mm-hmm. Est-ce qu'on s'en va à une autre petite chanson?
Oui.
Oui. Une
petite surprise.
Une petite surprise, là. Pour ceux qui ont écouté la série, ça, c'est nostalgique, hein?
Oh, wow!
Ouais, je me suis dit que pour l'histoire, Beverly Hills 90-210 ferait l'affaire.
Oui, et là, on a vu Janelle, Christine, Geneviève.
On dansait!
Oh oui!
On poursuit ce cabaret des acolytes et on va faire ton baptême, Christine. Ah non, t'as fait une chronique lors de la liste...
Pour la pige.
Très bonne chronique.
Très touchante.
Donc, c'est ta confirmation, alors.
C'est quand même chronique officielle, première. Oui.
Alors, on poursuit le cabaret sous le thème du binge-watching. Et t'as échangé de rôle avec Juan, Christine, et tu vas nous parler du binge-watching, l'histoire. C'est quand même récent comme phénomène, hein?
Ah oui, tout à fait, Jean-François. Mais pour débuter, les acolytes, je vous propose une petite chronologie des événements parce que la consommation de la télévision a beaucoup changé depuis son apparition.
Oui.
Alors, là, je vous ramène dans mes histoires à moi un peu en vous parlant de mon père qui me parle souvent qu'au début des années 50, quand la télévision n'était pas encore dans tous les foyers québécois, le vendeur de télévision de la rue Saint-Denis laissait la télévision allumée dans la vitrine.
Ah,
le samedi soir, tout le quartier se rassemblait pour y regarder le hockey. Le monde avait beaucoup de plaisir et le lendemain, tout le monde se racontait la partie de hockey, se donnait rendez-vous le samedi suivant. Par contre, tout le monde était dépendant du vendeur et de sa télévision.
Eh oui, s'il l'avait pas à Owen.
On était quand même mal pris. Alors, beaucoup plus tard, moi, je me souviens que tous les mardis soirs, on écoutait religieusement, en famille, la série Lance et Compte. On s'assoyait là, tout le monde ensemble, puis c'était le moment où on regardait ça ensemble.
Ouais, mais c'est tellement fou comment on se souvient de ces séries-là et on se souvient des jours et des heures de programmation à quand on les écoutait précisément.
Ah oui, tout à fait. Puis Jean-François, moi, je me souviens où on les écoutait aussi, dans quelle pièce. Je me souviens de tout. Le lendemain de Lancer Compte, tout le monde en parlait à l'école, puis on était tout le monde très impatient de voir l'épisode suivant. Par la suite, les enregistreurs sont apparus, puis on pouvait programmer, puis à ce moment-là, on pouvait choisir qu'est-ce qu'on écoutait et qu'est-ce qu'on allait écouter, puis qu'est-ce qu'on aimait écouter aussi, on pouvait le revoir. Geneviève, on les a usés, nos tapes à cassette, hein?
Et pelage, pas à peu près.
Fait que, tranquillement, on prenait possession de notre temps d'écoute. Ensuite, les diffuseurs ont commencé à sortir les coffrets et les de séries ou de films. Et là, on choisissait quoi et quand on regardait exactement. Je me souviens, moi, au bureau, on se passait le coffret des 24. On s'est acheté de rôle.
Oui, hein?
Finalement, est apparue la vidéo sur demande et c'est qu'autour de 2003 qu'on retrouve les premiers balbutiements du binge-watching. Donc, officiellement, par contre, ce n'est qu'en 2012-2013 que le phénomène prend réellement forme avec la diffusion, Janine, tu en as parlé tout à l'heure, là, de la première série complète par Netflix. Est-ce que vous savez laquelle?
House of Cards.
House of Cards, exactement. Et en fait, la série est arrivée, il n'y a pas eu d'épisode, un à la fois ou quoi que ce soit. Toute la série était tournée, puis elle est arrivée, elle a été déposée telle qu'elle dans Netflix avec beaucoup de marketing avant.
Ouais, c'est un pari quand même pour eux de faire ça au début.
Ah oui, tout à fait. Ils ont pris la chance de faire ça et ça semble avoir fonctionné.
Oui, ça paye.
Pas de punch. Hein? On consomme beaucoup de télévision dans le monde, et particulièrement au Canada. En moyenne, on consomme 3 heures de télévision par jour.
Oh, bobo, quand même!
Ouais, pour un total de 20 heures par semaine. J'ai même lu que 60% des abonnés de Netflix consomment de 2 à 3 séries par saison. Oh.
C'est beaucoup, ça!
D'ailleurs, il y a beaucoup d'effets néfastes associés. Jean-François, t'en as parlé brièvement. J'en parle aussi, là. On parle souvent d'importants troubles de santé, de plusieurs troubles psychologiques aussi, et surtout des troubles de sommeil. Puis, je vous donne une citation, là, qui porte à réflexion du cofondateur de Netflix qui dit que le sommeil est désormais la principale concurrente de la compagnie.
Ah, oh boy, il n'a pas dit ça pour vrai?
C'est vrai que pour certaines personnes,
c'est une obsession. Hein. Ils sont pas capables de décrocher, puis ça meuble leur vie complètement.
Ça amène, je veux pas tomber là-dedans, c'est vrai, là, mais ça amène quand même un débat éthique hein, quand on réfléchit à ça. Là.
Mm-hmm. Exactement. Ouais.
Mais son principal concurrent, c'est le sommeil.
Le sommeil, oui. Alors, pourquoi binge-watchons-nous, me demanderez-vous?
Mais pourquoi
on binge-watch?
selon mes recherches, plusieurs anthropologues culturels exposent que le binge-watching est aussi une nouvelle forme d'évasion. On en a besoin pour sortir du quotidien, sortir de notre routine, éviter le stress et rêver un peu. Hein, Janelle, quand les enfants sont couchés, on a le temps de relaxer devant une série. Ça fait du bien.
Mais ça, sauf que là, le piège, c'est de pas tomber dans une, puis se coucher à 2 heures du matin.
Exactement.
Oui, parce que les enfants, ils binge-watchent pas.
Non.
Non. Mais imaginez, 73% d'entre nous ressentent un sentiment positif lorsqu'on regarde des séries en rafale. Et selon mes lectures, plusieurs psychologues nous disent que ce comportement permet la sécrétion de dopamine. Jean-François, comment appelle-t-on cette drogue?
La drogue du bonheur, peut-être. Hein?
Exactement. On est heureux et on cherche à retrouver ce sentiment-là encore et encore. Et ça, les plateformes de visionnement l'ont très bien compris.
Elles recherchent notre bonheur.
Exactement.
À notre place.
Tout est bâti, leur modèle d'affaires est bâti en fonction de notre bonheur, les acolytes. C'est génial.
Ben oui.
Alors, les plateformes misent sur un service personnalisé, tellement personnalisé qu'on parle plus en termes de foyer, mais en termes d'individus. Chaque membre de la famille possède un profil différent. Mm-hmm. Et comme vous le savez, là, sur Internet, il y a un paquet d'informations qui est recueilli. Et les différentes plateformes utilisent des algorithmes très complexes qui permettent de cibler vos goûts et d'y associer les nouvelles tendances. Ainsi, on vous propose un éventail de possibilités de consommation. Puis je suis certaine que vous allez vous retrouver là, si je vous dis « Vous avez écouté ceci, vous aimerez sûrement cela ».
Oui.
Alors, il y en a beaucoup des plateformes là. Donc, il y a Hulu, parce que je parlais de Netflix, mais il y a Hulu, il y a Disney+, il y a Amazon Prime, il y a Apple TV, je ne les nommerai pas tous, mais du côté francophone, Tout.tv, La Fabrique culturelle, il y en a vraiment beaucoup d'autres.
TVA+, également, oui.
TVA+, tout à fait. Alors, on ne sera jamais à court d'idées, parce qu'autant ces plateformes-là, les réseaux sociaux, les différents blogs, les médias, votre entourage vous aide tous à bien binge-watcher. C'est tellement présent dans nos vies, comment est-ce qu'on pourrait s'en passer?
Oh, Christine, t'as bien accompli ton mandat.
Ben oui.
Alors ça, c'est pas très connu.
Non, c'est pas très connu. En fait, je pouvais pas passer à côté de l'occasion de mettre une chanson en espagnol, vous me connaissez. Donc en fait, on écoutait Alexa de la Landa dans son interprétation de la chanson El Triste, dans le cadre de son rôle dans la série La Casa de las Flores. C'est une série mexicaine sur Netflix. C'est drôle, c'est émouvant. Elle a su en 3 saisons traiter de sujets très délicats dans une société mexicaine qui est en pleine évolution. On y parle d'adultère, de sexualité, de bisexualité, d'homosexualité. On aborde les enjeux liés à la transsexualité, le tout dans une ambiance musicale incroyable, vraiment incroyable. Vraiment chapeau, pour moi c'est mon coup de cœur de 2020.
Et là ça avait de l'air deep là, comment tu l'as exprimé, mais c'est très 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 drôle.
Oui c'est vraiment le fun là. Les sujets sont abordés de façon vraiment joviale, puis un problème est pas vraiment un problème jusqu'à temps qu'il soit résolu, fait que c'est vraiment une saison, 3 saisons intéressantes à regarder. Moi, je vous le conseille fortement. Puis en parlant du Mexique, je veux juste saluer mon amie Véronica Villa qui nous écoute religieusement tous les lundis quand on sort un nouvel épisode.
Bon.
Go, go, go!
Vous l'avez tous reconnu. Go, go, go!
C'est bon.
Walito, qu'est-ce qu'on écoutait?
Ah, ben, on écoutait le générique de L'Anse et Compte pour ceux qui ne l'ont pas reconnu et qui ne le regardaient pas tous les mardis matins.
Saviez-vous que le réalisateur de la première saison, c'était Jean-Claude Laure? Le saviez-vous ça?
Non, pas du tout.
Dans mes recherches cette semaine. Alors, on poursuit le cabaret sur le thème du binge-watching et je me tourne vers Geneviève. Geneviève, on lance compte, les séries québécoises, c'est à toi.
Ben, merci beaucoup, Jean-François. Écoutez-moi, c'est tellement un plaisir pour les Picuriennes que je suis de regarder une petite série par-ci, une petite série par-là. Puis, un peu comme Christine mentionnait, moi, j'ai envie de vous faire une tournée aujourd'hui des séries que j'ai pas pu binge-watcher, mais qui c'est maintenant, il y en a plusieurs que c'est possible de binge-watcher. Fait que peut-être que ça va vous donner envie de regarder certains de nos, ben, je considère chefs-d'œuvre, entre autres très, très belles œuvres qu'on a faites ici au Québec. Mmh. Donc, on a vraiment du bon stock, comme on dit. Alors, on va faire un petit jeu des acolytes pour se faire, OK? Je vous ai préparé un petit quiz. Je vais vous donner un indice, puis vous allez essayer de trouver de quelle série il s'agit, OK?
Ah, cool.
Et, OK, go! Vous êtes prêts? Parfait. Alors, si je vous dis Ostendbur.
Jamais deux sans toi.
Oui, t'es bon.
Exactement.
J'allais le dire, là. J'allais le dire. Encore une fois,
bravo, Juanito,
cool.
Je suis fière de toi. Donc, jamais deux sans toi, avec le regretté Jean Besseri et la sublime Angèle Coutu. Alors, c'est 83 épisodes de 25 minutes, mesdames et messieurs, pour cette série-là. S'en suivra une décennie et quelques plus, un peu plus qu'une décennie plus tard, la suite, si on veut, avec les héritiers Duval.
Ah oui, les héritiers Duval.
Ouais. Les héritiers Duval, eux, 148 épisodes de 45 minutes.
Quand même. Hein?
Voilà. Mm-hmm. Quand même. Maintenant, si je vous dis shit de shit Lola.
Chambre en ville.
Et voilà! Ben, vous êtes bons! Alors, c'est en 1989, ben oui, Chambre en ville, on compte 188 épisodes en tout, mais c'est spécial. Il y en a 32 de 25 minutes et 156 de 50 minutes.
Oui, il avait changé le format. Ben oui.
Ça a pogné, comme on dit, tu sais.
Exact.
Alors, c'est ça. Donc, on avait Francis Rédé, Anne Dorval, évidemment.
Louise Deschâtelet.
Louise Deschâtelet, ben bien sûr, cette icône-là.
Et Claude Legault également. Moi, c'est là que j'ai connu Claude Legault.
Tu sais, je me souviens pas de Claude Legault là-dedans.
Ah oui, c'était le chum de Louise Deschâtelet.
Ouais. Oh, ben oui, tellement! Ouais. Bravo, mon Dieu, tu m'étonnes.
C'est Sylvie Payette, hein? C'est Sylvie Payette qui a écrit cette...
Exactement.
Elle a écrit, oui, c'est ça. En tout cas, dans mes lectures, ça n'a pas de l'air que c'est toute elle qui les a écrits, mais oui, elle en a écrit quelques-uns, effectivement.
OK.
Oui. Alors, super. Donc, le prochain, si je vous dis « Ma belle brume ».
Ah, oh, les filles de Caleb. Les filles de Caleb.
Tellement. Alors,
t'as même pris ta voix comme chaude pour dire ça.
J'ai tenté d'imiter un tant soit peu Roy Dupuis, en tout cas. Donc, c'est en 1990, hein, ça a été diffusé. Alors, 20 épisodes de 45 minutes. Et puis, c'est sûr qu'il y avait Marina Orsini, donc c'était elle, la belle brume, avec Roy Dupuis que j'ai nommé. Et il y a eu une suite un peu plus tard de leurs enfants, donc Blanche, avec Pascal Bussière, en 11 épisodes de 45 minutes.
Ouais, c'est bon.
Ouais, c'est un bon.
Et c'est vraiment tout magnifique. Le Québec était branché là-dessus.
Ah, un peu comme les pays d'en.
Ah oui.
Les jeux du soir, hein, c'est ça, les jeux du soir?
Oh, là, par contre, tu m'en demandes une bonne. Là. Ça, j'ai pas, je ne l'ai pas fait dans mes... Je ne l'ai pas écrit.
Écrivez-nous pour nous le dire.
Ah oui, pourquoi pas? Bonne idée, Jean-François. Le prochain, où est-ce qu'on s'en va maintenant? Si je vous dis de résumer en un seul mot la loi du silence.
Omerta!
Oui!
Mon Dieu, t'es vraiment bonne, Christine!
Bravo, Christine! C'est très, très bien. Donc, c'est ça, donc ça. OK, donc en 1996, donc c'est ça, avec Michel Côté, Luc Picard et un des parrains, évidemment, il y a trois saisons, donc on parle de Dino Tavarone.
Ah ben oui.
Donc, 38 épisodes de 45 minutes et c'est très, très bon. Si vous aimez le type mafioso, c'est très, très, très bon. Et autrement, si je vous dis cinq amis dans la trentaine,
La vie, la vie.
C'est A.
La vie, la vie.
Oui, la vie. Mais il y en a plusieurs choix.
Non, mais cinq amis.
Cinq, oui, c'est A, ils sont quatre.
C'est vrai, la galère, ça, ouais.
J'avoue qu'il y a plusieurs thèmes qu'on peut regrouper là-dessus, mais c'est ça. C'était vraiment la vie, la vie que je visais ici, qui a été diffusée en 2001. Alors, on a 39 épisodes de 22 minutes. C'est avec Patrick Labbé et, entre autres, Macha Limonchik. Et plus tard, vers 2006, c'est pas nécessairement une suite, mais c'est du même auteur, Stéphane Bourguignon, et dans le même genre, on retrouve Tout sur moi, si vous voulez.
Ah, je le savais, celui-là, t'aurais pu poser la question.
Je voulais te saluer, Juan, je sais que tu l'avais bien aimé, là. C'est pour ça que je l'ai incluse, là. Donc, c'est ça, mais autrement, moi, si je peux dire aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut binge-watcher, si jamais c'est pas déjà fait pour vous, il faut absolument y aller avec District 31, 596 épisodes de 17 minutes, avec entre autres Vincent Guillaume-Otis, Michel Charette, Sébastien Delorme et Gildor Roy.
Quelle magnifique série, mais il faut vouloir les commencer du début, là.
Ouais,
c'est quelque chose.
C'est quand même demandant, là. C'est... faut binge-watcher.
Oui, c'est ça. Alors, bon binge-watching.
Merci beaucoup, Geneviève. Juanito!
Ben, on écoutait le thème de Friends,
ben oui.
Qui est une chanson du groupe The Ramblers.
Avant de vous parler des livres que j'ai lus, je vais justement parler de deux mots sur Friends pour vous donner une idée de grandeur du pouvoir économique qu'ont les séries. Vous savez que Friends, depuis le 31 décembre, n'est plus sur Netflix. Pourquoi, me direz-vous? Hein? Pourquoi?
Pourquoi, Jean-François?
Ben oui.
Oui, pourquoi?
Eh bien,
ça
selon...
Ça doit coûter cher.
Selon The Hollywood Reporter, Netflix a perdu Friends dans une guerre aux enchères avec Warner Media, une guerre pour obtenir les droits de diffusion. Et tenez-vous bien, Warner Media a accepté de payer 85 millions de dollars par année pendant 5 ans pour l'émission.
Incroyable.
Quelque chose,
mais j'ai vu qu'il était sur Crave. Je ne sais pas si Warner Media, Crave appartient à Warner Media, mais je l'ai vu sur Crave maintenant, Friends, me semble.
C'est presque un demi-milliard.
C'est presque un demi-milliard.
C'est fou.
C'est presque un demi-milliard. C'est 85 millions. Ah, fois 5, oui, OK.
Mon Dieu.
Mais je ne sais pas, pour répondre à ta question, Janelle, si Crave appartient à Warner Media. Pour ma chronique, j'ai lu cette semaine deux livres, Découvrir New York en série et Découvrir Londres en série de Marion Miclet aux éditions que je ne connaissais pas et je vais peut-être me fourvoyer en le disant. Huggin et Miggin, ça c'est les éditions.
C'est quelle langue ça? Excuse-moi, non, c'est une joke.
C'est une édition française, mais c'est anglais. Bon, Huggin et Miggin. Marion et Marion Miclet nous transporte dans un monde meublé. On va le dire, un petit peu d'obsession et d'obsédé, parce que aller visiter les lieux de tournage pour certaines personnes, c'est comme si ces personnes-là entraient littéralement dans le monde imaginaire de la série. C'est comme si c'était une extension pour elles de la série. Comme si elles pénétraient les coulisses. C'est un fort sentiment là, de comme si même elles étaient actrices de la série. Hein. Bon. Mais avez-vous déjà visité des lieux de tournage, vous? Spécifiquement?
Ah, non?
Non.
Moi, je suis allé à Chicago dans un restaurant. Il y avait Al Capone, mais c'était la vérité. C'était pas un tournage.
Ouais. J'ai visité Cheers à Boston.
Oui, Christine aussi, oui. Ben oui, puis tu fais le détour. Hein, quand tu es à Boston, tu fais le détour pour aller visiter Cheers. Ouais.
Exact.
Nombreuses sont les séries qui se sont déroulées à New York parce que le premier livre traite de New York et qui mettent en valeur la ville. On n'a qu'à penser, tu en as mentionné quelques-unes, Janelle, Friends, Seinfeld. Deux séries, par contre, qui n'ont pas été tournées à New York.
Ah non?
Non, elles ont été tournées à 4500 km de là, dans les studios d'Hollywood. Mais on peut visiter les scènes extérieures. Le célèbre restaurant de Seinfeld, Monk's Restaurant, qui en réalité s'appelle le Tom's Restaurant. Mais ce qui est drôle avec ce restaurant-là, c'est que l'enseigne dit Tom's Restaurant de l'extérieur. Et on a pris la même enseigne pour filmer l'extérieur. Mais avec l'angle de la caméra, on voit pas que c'est écrit Tom's. Oh. On pense que c'est écrit Monk's, mais c'est Tom's que c'est écrit. Bon,
C'est quand même judicieux. Hein?
Oui.
Les dessous d'Hollywood.
Exact. Ou de New York. Tourner à New York, ça coûte cher, très, très cher. Et c'est une des raisons pourquoi on tourne à Hollywood. Puis la majorité des scènes extérieures, par contre, sont tournées dans la ville dont on fait mention, comme à New York. Une série qui fait par contre exception, et c'est Sex in the City, qui a été tournée entièrement à New York.
Ah, okay. Oui.
Ah ouais, on est ailleurs avec Sex in the City parce que la ville fait partie de c'est comme si c'était un cinquième personnage. Tu sais, il y a les quatre amis, puis il y a un cinquième personnage, c'est la ville, hein, il me semble.
Oui. Moi, j'ai visité la bibliothèque, le fameux mariage dans Sex and the City qui se passe à la bibliothèque.
T'es allé, là? Oui. Ouais, Geneviève? Oui.
J'en profite pour dire qu'il y a une autre saison qui s'en vient de Sex and the City, ça revient.
Ah oui, c'est vrai. Il y a des gens qui prennent Sex and the City comme prétexte pour aller visiter New York. On peut littéralement prendre quelques jours à faire le tour de la vingtaine de lieux de tournage et plusieurs tours guidés spécifiques pour Sex and the City sont offerts. On s'entend, ils sont offerts en temps normal. Alors, je sors un petit peu oui, Juanito?
Moi, je voulais juste dire que j'ai visionné une série dernièrement qui s'appelle Being Human. Puis, la version américaine de cette série-là a été tournée à Montréal. On retrouve beaucoup, beaucoup de paysages de Montréal. Mmh. Puis, si vous voulez aller essayer de retrouver la maison, je pense qu'elle est proche de Park Edmilton.
Ah oui. Puis dans X-Men, tu me fais penser, dans X-Men, là, il y a tout plein de scènes là, qui se passent sur le proche de l'hôtel de ville de Montréal.
Ouais, ouais.
Puis tu peux aller voir hein, qu'est-ce que ça donne.
Il y a Suits aussi qui est allé, qui est tourné à Toronto. Suits, beaucoup c'est de fou, scènes hein? À Toronto. Parce que ça ressemblait un peu les gratte-ciels et tout ça à New York, mais en moins cher.
C'est ça.
J'ai lu deux livres. Le deuxième, c'est découvrir Londres en série. Et imaginez-vous descendre le grand escalier du château de Downton Abbey.
Oui.
Oh, oui. Ben, c'est pas un décor. Le château existe et il est situé à 1h30 de Londres. Et les décors intérieurs de la série, c'est réellement les décors du château. Le château de Highclere, on peut le visiter. Et les visiteurs sont tellement nombreux depuis la série que ça l'a permis aux propriétaires de remettre en valeur ou de démarrer des travaux, là, parce qu'ils sont dans les travaux actuellement. Mais les travaux de 19 millions de dollars parce que le château était en très mauvais état, l'intérieur. Et d'ailleurs, il y avait des travaux très critiques là, qui devaient se faire au coût de 2 millions de dollars.
Ah, c'est génial.
Oh, wow.
On peut également réserver le château pour se marier.
Oh, quelle bonne idée.
Bonne idée.
Le prix minimum pour la salle, et c'est même pas la grande salle, c'est juste la librairie. Le prix minimum est de 25 000 $. Pas de bouffe, pas de service, uniquement la salle.
Eh ben!
On n'a pas un mariage qui s'en vient prochainement?
Oui, peut-être, on peut suggérer ça.
Je pense que ce ne sera pas là.
Alors, si vous avez aimé, vous pouvez lire ces deux livres, Découvrir New York en série et Découvrir Londres en série de Marion Miquelet aux éditions Higgin Higgin.
Merci Jean-François, c'était une très belle chronique.
Merci. Tremblez-vous? L'avez-vous reconnu?
L'avez-vous reconnu, les acolytes?
Ah, je pense que c'est pas au-delà du... C'est pas les affaires, mon Dieu, X-Files, non?
Ah, presque. T'es dedans. En fait, c'est Stranger Things. Okay. Donc, vraiment, le petit dernier qui a fait fureur sur Netflix. Et puis, on a... en fait, c'est une composition de Carl Dixon et de Michael Strain.
Juanito, avant de finir ce cabaret, moi, j'ai une surprise pour toi.
Oh oui?
On l'écoute à l'instant. Parce qu'on a beaucoup parlé des séries télévisées, mais Juanito, dans nos réunions de production, a mentionné Superman, parce qu'on peut écouter des films en rafale, et la série de Superman peut très, très bien s'écouter.
Exactement. Moi, j'étais un fan de Superman, fait que je l'ai ramené à plusieurs reprises, puis là, j'ai eu la belle surprise d'avoir la musique, alors que c'était moi le DJ, normalement.
Le Superman de la musique.
Oui. Alors, voilà, j'espère qu'on vous aura fait voyager sous le thème du binge-watching ou du visionnage en rafale. C'est déjà la fin de ce cabaret. Si vous avez aimé le cabaret des acolytes, n'hésitez pas à ajouter quelques commentaires sur les plateformes Apple, Spotify, Google ou autres. Visitez également notre page Facebook au facebook.com/le cabaret des acolytes. Alors, un petit mot pour la fin. Comment tu as aimé ton expérience, Juanito?
Ah, ben j'ai bien aimé ça, j'ai bien aimé. Je t'avoue que je trouve que Christine a parfaitement relevé le défi de l'histoire. Je sais pas si moi j'ai relevé le défi de la musique, mais
je
me suis bien amusé.
C'est très bon,
très bon.
Ah, merci beaucoup.
Le verdict de Christine, est-ce qu'il a réussi?
Ah oui.
Ah, c'est ça qui compte.
Définitivement.
Merci. Christine, toi, un petit mot de la fin?
Ouais, en fait, moi, je vous propose un thème autour de la machine à café demain matin. Hein? Vous avez quoi comme ça?
Christine, est-ce que tu nous reviens à la barre musicale au prochain cabaret?
Ben, seriez-vous d'accord?
Ben oui. mais ça a été bon, ça a été bon.
On va faire la barre.
Janelle, avant de nous quitter...
Hey, j'espère quand même vous avoir donné le goût de regarder quelques-unes des séries. Allez commenter si vous avez des choses qu'on n'a pas nommées aujourd'hui. Allez les commenter sur notre page Facebook. On adore ça, vous lire, chers auditeurs.
Merci, Janelle. Et toi, Geneviève, pour compléter ce tour de table, quelques mots?
La modération a bien meilleur goût.
Ah, c'est tellement bien dit. Ben oui, c'est vrai, oui. C'est vrai. Je vous remercie. Ce balado est une production Fort Talent. On participait à cet épisode Janelle Touchette, Christine Gélina, Geneviève Proux, Juan Blasco, mon nom est Jean-François Gélina et on se laisse la gang sur cette réflexion sur la télévision, une réflexion de David Frost, ce satiriste britannique. La télévision est une invention qui vous permet de faire entrer dans votre salon des gens que vous n'aimeriez pas recevoir chez vous.
C'est bon.
Bonne semaine tout le monde.
Salut.
Bonsoir.
Merci.